Chers amis auditeurs de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2011 et aujourd'hui, nous allons montrer comment Dexia conduit à la ruine des contribuables. Il n'est pas possible actuellement d'ouvrir un journal sans lire de gros titres sur Dexia. Et c'est l'heure des gros mensonges. Un grand quotidien titre, Dexia, la première banque victime de la crise. Ce n'est pas vrai du tout, car cette banque est victime de l'incompétence de ses dirigeants et sans doute de beaucoup de compromissions. Malheureusement, de nombreuses banques souffrent du fait de la médiocrité de leurs dirigeants, voire tous ces établissements qui, avec une légèreté coupable, ont prêté à l'État grec, et ceci depuis longtemps, alors que les dangers étaient connus des vrais experts. Un peu d'historique sur Dexia est utile. En 1987, il s'agissait d'une obscure petite division de la Caisse des dépôts et consignations, finançant les collectivités locales. Elle s'en émancipa pour devenir le Crédit Local de France, codé en bourse et privatisé. En 1996, eut lieu un mariage avec le voisin belge du même métier, la nouvelle union recevant le nom de Dexia. L'objectif était de devenir un leader mondial dans le financement des collectivités locales. L'inconvénient était que dans ce métier, les marges ne sont pas très fortes. Au lieu de chercher à améliorer le cœur du métier, les dirigeants portèrent leur regard ailleurs. Ce fut la transformation. Ils empruntèrent à court terme pour pas très cher et prêtèrent des financements à long terme pour plus cher. Une mécanique infernale était lancée. Comme cela faisait beaucoup d'argent, les mêmes mauvais banquiers se lancèrent dans une boulimie d'acquisition d'entreprises, d'activités ou même de portefeuilles. Espagne, Italie, Japon, États-Unis étaient leur terrain de chasse. Tout baignait. Lorsqu'en 2008 le poteau rose apparut brusquement, Dexia eut besoin de 260 milliards d'euros, la banque n'ayant que 4 jours de liquidité devant elle. Les États belges, français et luxembourgeois furent appelés au secours. Chemin faisant, l'action a perdu 94% de sa valeur. Nous en arrivons à la situation actuelle où le sauvetage est organisé en urgence. Sous réserve d'autres évolutions, car cela bouge tous les jours, il semble que l'on s'oriente vers la seule solution logique, vendre tout ce qui est vendable et cantonner le reste dans ce que l'on appelle une « bad bank », mauvaise banque, que le contribuable sera appelé à supporter, bien sûr sans que son avis lui soit demandé. Cela rappelle de tristes souvenirs. Des années 1990, souvenez-vous, le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, la compagnie d'assurance GAN et autres victimes de scandales d'État. Les enseignements à tirer de cette triste histoire sont nombreux. Il y a certainement de multiples compromission. Dans ce monde où tout le monde se tient par la barbichette, les dirigeants principaux n'étaient certainement pas les seuls à fauter. Les États sont directement responsables. Parmi les actionnaires se trouvent non seulement les États français et belges, mais aussi de faux nés comme la Caisse des dépôts et consignations, instrument ordinaire de l'économie dirigée en France. L'appui des États pour sauver les meubles a pris de multiples formes. Garanties accordées aux déposants et aux créanciers, perspectives d'accroissement des pourcentages dans le capital, garanties aux futurs emprunts éventuels lors de la remise en ordre. Personne ne peut, à ce jour, mesurer le nombre de milliards que les contribuables devront supporter en définitive, et tout chiffre avancé peut-être dépassé le lendemain. Les mauvais banquiers, qui siégeaient sans doute dans les conseils d'administration impliqués, ont été parfaitement enclins à pousser au secours étatique. C'est au surplus un encouragement à rester dans leur médiocrité, puisque les États seraient prêts d'eux-mêmes à venir à leur secours le cas échéant. Toujours à propos de la Grèce, nous observons le même scénario. Dans l'historique, nous constatons une boulimie d'acquisition. Rien de plus dangereux à la fois pour de grandes firmes que pour de petites que de se lancer dans une telle boulimie, c'est se heurter inévitablement au manque de temps et de talent pour analyser les cibles et mener à bien la bonne gestion ultérieure. Pire encore, cette voracité s'est réalisée dans un grand nombre de pays. Il n'est rien de plus dangereux que de se présenter dans un pays étranger que l'on ne connaît pas en manifestant un grand appétit. Les nationaux ne manquent pas de vous refiler des patates chaudes ou même des traquenards juridiques, car eux seuls connaissent à fond et la loi et les us et les coutumes. Le métier d'origine, à savoir le financement des collectivités locales, était considéré comme ne comportant pas de risque. Voire, en effet, à l'époque, ces collectivités locales n'étaient pas tellement endettées. Et ce sont les lois de décentralisation qui les ont conduits à s'endetter davantage. L'erreur était funeste, car ces collectivités se sont engagées dans des dépenses parfois tout à fait insensées, pour des besoins artificiels, parfois même avec des emprunts toxiques. La richesse nationale souffre gravement de cet emballement. La conclusion de cet énième scandale d'État est que si les déposants ou les créanciers peuvent éventuellement être garantis, il n'y a nul espoir pour les actionnaires. La conséquence malheureuse est de décourager une nouvelle fois les particuliers de placer leur argent à la bourse en achetant des actions. C'est plutôt mélancolique, car étant donné la déroute actuelle des marchés, c'est justement le bon moment pour acheter, avec évidemment la plus grande prudence, les plus belles affaires qui sont littéralement massacrées. Cette dernière conséquence est particulièrement grave, car le développement de l'actionnariat est une vraie nécessité pour l'accroissement de la richesse nationale. Chers amis auditeurs, suivant la tradition, je vous dis à mardi prochain.